Michel Jam, on se retrouve pour continuer ce 22e Radio Barque. On a quitté tout à l'heure, on s'est quitté, si je puis dire, avant la pause, sur le problème des HLM, vous nous l'avez expliqué. Bon, il faut rappeler quand même aussi que votre commune est appelée à l'avenir à s'étendre probablement à cause des grands projets qu'il y a sur Port-la-Nouvelle, notamment l'éolien, l'agrandissement du port. J'imagine que ça, c'est une carte que vous prenez en compte.
Oui, absolument. Aujourd'hui, nous assistons donc à l'agrandissement du port de la Nouvelle qui va drainer pas mal de personnes pour les travaux et ensuite pour toute l'économie qui sera induite par rapport à cette extension. Et évidemment, étant très proche de Port-la-Nouvelle, donc nous sommes un bassin d'habitation pour le site du Grand Port, oui.
Voilà. Donc ça fait partie, j'imagine, des choses que vous avez en tête au quotidien.
Oui.
Maintenant, venons-en. Alors, il faut savoir que vous avez la responsabilité donc du grand cycle de l'eau, une compétence qui s'appelle, dans un jargon technocratique, le GEMAPI, c'est-à-dire c'est la gestion des milieux aquatiques et la prévention des inondations. Bon, ça veut dire ça. Peut-être qu'on vous l'avait déjà confié, d'ailleurs, dans le mandat précédent, peut-être parce que sur votre commune, vous avez une rivière, la Berre, qui est assez capricieuse quand il y a des inondations, et on a peut-être pensé que vous aviez déjà à la fois une compétence et un souci particulier là-dessus. Cette Berre, c'est un fleuve côtier méditerranéen, avec tout ce que ça implique.
Pour parler des inondations, je pense que les maires qui ont subi des inondations sont quand même les mieux placés pour en parler, pour discuter et pour chercher des solutions. Donc c'est une compétence effectivement que Jacques Bascou m'avait confiée au mandat précédent et que Didier Mouly a souhaité que je continue à exercer. Et effectivement, la commune de Sigean est régulièrement, les bas quartiers de la commune sont régulièrement inondés. Et en ce qui me concerne, pour la première fois en 2014, juste après ma prise de fonction. Donc c'est vrai que ce sont des épisodes qui sont importants, qui sont douloureux, qui sont traumatisants, pour tout le monde, puisque ils sont traumatisants pour les personnes qui les subissent, mais également pour nous qui avons des personnes à sauver, des biens à sauver également. Et la Berre est un fleuve côtier ce n'est pas un très long fleuve, mais c'est un fleuve qui souvent est sec. Vous passez à certains endroits, vous ne voyez pas d'eau, vous vous dites ce n'est pas possible. Mais c'est un fleuve qui se transforme rapidement en torrent selon les précipitations.
Oui, voilà, comme la plupart de ces fleuves côtiers sous le climat méditerranéen.
Sous le climat méditerranéen.
Oui, voilà, avec un régime tout à fait particulier.
Oui.
C'est ça qu'il faut voir.
Et ce qui constitue une grande différence avec les inondations que nous pouvons voir souvent ailleurs en France,
comme oui, sur d'autres fleuves.
Les toutes dernières que nous avons vues dans le sud-ouest, ou celles que nous voyons sur la région de Paris, où en fait le fleuve monte doucement et inonde doucement. Nous, c'est très rapide.
Ici, c'est toujours brutal.
Ici, c'est très,
on a
très
plein
rapide.
D'exemples dans la tête. Et alors, justement, on sait qu'on est dans un pays comme ça, avec un climat et une configuration qui fait qu'on n'y échappera pas, on est parfois surpris du fait que lorsqu'il y a une inondation, au bout de quelque temps, les gens l'oublient un peu, alors que certains parlent de la culture du risque qu'on devrait avoir en tête toujours. Quel est votre sentiment, monsieur le maire, à ce sujet ?
Vous avez tout à fait raison. La culture du risque est un point que nous essayons d'animer au SMAR, qui est le syndicat mixte des milieux aquatiques et des rivières, dont je suis le vice-président. La sensibilisation, la communication et avoir cette culture du risque est une chose. Je vous disais il y a un instant, lorsqu'il y a des inondations, effectivement, c'est traumatisant. Donc certaines personnes restent traumatisées. Moi, je le vois lors de chaque épisode pluvieux. Il suffit d'un coup de tonnerre pour que quelques personnes commencent à être fortement perturbées par ce qui risque d'arriver. Mais par contre, il y a des personnes qui oublient totalement. Et souvent, on fait référence au fait de... On nous dit, à tel endroit, il n'y a jamais eu d'eau. Mais c'est vrai qu'on oublie quand on regarde...
C'est-à-dire on fait du déni, en quelque sorte.
Hein. Voilà. Il est possible que certaines personnes... Alors, oublient peut-être tout naturellement, ou font du déni pour ne pas... pour essayer de refouler au plus profond d'eux-mêmes les traumatismes qu'elles ont pu avoir lors d'inondations.
Et alors les inondations, ça peut, en tout cas en théorie et un peu en pratique aussi, se gérer. Je prends l'exemple des Catalans dans les Pyrénées-Orientales qui, eux, il y a 20 ou 30 ans ou plus, ont construit deux grands barrages sur le fleuve Agly à Caramani et puis sur le fleuve La Tête à Vinça, je crois, avec des grandes retenues d'eau. Est-ce que dans l'Aude, on a envisagé ce genre de solution ?
Alors c'est une grande discussion qui est sur le tapis d'ailleurs, puisque souvent les riverains qui sont frappés par les inondations demandent à ce qu'il soit fait des barrages et créteurs. À ce jour, pour l'instant, la question n'a pas été réglée, mais il faut regarder les avantages et les inconvénients. Et c'est vrai qu'un barrage peut retenir l'eau. Mais bon, il faut que l'endroit s'y prête, hein, que l'on puisse donc construire un tel barrage. Et puis l'intérêt, en fait, est que en termes d'inondation, et que l'eau reparte rapidement en cas de nouvel orage dans les heures qui suivent. Sinon, à un moment donné, le barrage risque de ne servir à rien et avec les risques que cela présente. Le barrage peut aussi servir de réserve d'eau pour l'alimentation en eau. Bon, c'est une discussion en cours qui n'est pas tranchée.
Et alors ce SMAR, donc ce syndicat mixte qui gère sur ce problème-là, Michel Jamm, l'ensemble du département.
Le SMAR est un établissement territorial qui, en quelque sorte, chapeaute les 7 syndicats de rivière qu'il y a dans le département de l'Aude. Et c'est-à-dire qu'il fédère, il coordonne l'action de ces syndicats et il participe à de nombreuses actions. Par exemple, les plans communaux de sauvegarde que nous élaborons dans les communes, bon, c'est le SMAR. Lorsqu'il y a des inondations, nous sommes obligés de poser des repères de crue. C'est aussi le SMAR. Le SMAR travaille sur la réduction de la vulnérabilité des entreprises et des bâtiments publics. Le SMAR nous aide à prendre en compte ce risque d'inondation dans nos documents d'urbanisme. Le SMAR nous aide dans les programmes et dans toutes les recherches de subventions, parce que vous doutez bien que tout le travail...
Ah oui, ça coûte très cher.
Voilà, tout le travail qui peut être fait dans l'entretien des rivières ou dans la construction de digues, par exemple, ça coûte très très cher et on ne pourrait pas construire s'il n'y avait pas des financements adéquats.
Oui, et justement, je lisais il y a quelques jours à peine dans la semaine du Minervois qu'il y a un projet titanesque de prévention des inondations à l'Aure Minervois. Donc c'est un parmi d'autres, j'imagine. Là, c'est le SMAR qui est en charge de ces projets-là ?
Non, directement, c'est le syndicat concerné qui est
le syndicat de bassin versant.
D'Aude Centre, voilà. C'est le syndicat d'Aude Centre qui est basé à Conques sur Orbiel et qui court jusque dans le Minervois.
Oui, voilà. Donc c'est un projet plus local, celui-là.
Oui, tout à fait.
Et est-ce qu'il y en a beaucoup, des projets comme ça, qui semblent être des solutions, en tout cas, des débuts de solutions ?
Alors, des projets importants, il y en a beaucoup. Aujourd'hui, nous sommes en train de mener, parce que la loi a confié en 2018 les submersions marines également aux agglomérations, nous sommes en train de faire une étude sur tout le littoral audois par rapport aux submersions marines. Et il faut savoir que ce genre d'études coûte plusieurs centaines de milliers d'euros. Donc c'est un chantier important. Les études coûtent très cher, mais les études sont nécessaires. Aujourd'hui, il y a des études qui sont menées également pour la protection et la protection de Narbonne et la protection de Coursan. Donc la protection de Narbonne peut passer par un investissement également très important. Là, on parle toujours en millions d'euros. Mais dans le Narbonnais, pour 2021, par exemple, tous les travaux qui vont être menés pour la finalisation de travaux sur les digues, les déversoirs ou autres, nous sommes à plus de 4 millions d'euros d'investissement. Donc ce sont des travaux qui coûtent très 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 cher.
Voilà, qui coûtent cher, mais qui finalement sont au bout du compte peut-être sinon rentables, du moins indispensables.
Voilà, qui sont indispensables, qui coûtent cher parce qu'ils coûtent cher de construction, ils coûtent cher
d'entretien.
Ils coûtent cher d'entretien. entretien, ils coûtent cher dans les études. Et je vous disais qu'ils étaient financés. Ce sont des travaux pour lesquels nous pouvons aller chercher jusqu'à 80% de subventions. Donc il ne reste plus qu'à financer les 20% autres. Mais vous comprenez bien que...
Il faut trouver les 80.
Il faut aussi trouver les 20, c'est-à-dire que 20% de 4 aussi. Millions d'euros, ça, on est à 800 000 euros. Et c'est ce que nous finançons par la taxe GEMAPI, donc qui est le montant, la taxe GEMAPI qui est votée par l'agglo, mais qui correspond au montant que nous remontent tous les syndicats de rivière par rapport aux besoins qu'ils expriment.
Et à propos du risque, de la culture du risque dont on parlait tout à l'heure, est-ce que une action est menée auprès de la population et notamment auprès de la jeune population? Population scolaire.
Oui, c'est une des missions du SMAR et également tout ce qui a trait à la communication, tout ce qui a trait à la sensibilisation. Et c'est une action qui a été menée par le SMAR déjà dans les écoles pour sensibiliser les enfants. C'est le meilleur public pour les sensibiliser à un certain nombre de risques. Et je ne me rappelle plus si c'est en 2018 ou 2019, il y avait eu par exemple une action sur l'école primaire de Bages.
Oui, en ce sens.
Voilà.
Voilà. Mais est-ce que ça se fait régulièrement? Parce qu'on a l'impression, je le redis, qu'on oublie assez vite ce qui s'est passé.
C'est quelque chose qui est amené à se faire régulièrement. Bon, évidemment, vous voyez bien que la période n'a pas été très propice ces derniers mois. Mais effectivement, c'est un point sur lequel nous travaillons.
Oui. Et alors, pour terminer cette partie, Michel Jam, vous êtes chargé donc à l'agglo maintenant du grand cycle de l'eau, c'est-à-dire ça va bien au-delà des inondations. Expliquez-nous.
Le grand cycle de l'eau commence déjà à l'alimentation en eau.
Voilà, c'est-à-dire le robinet.
Donc voilà, là, c'est une question d'eau potable. Mais du moment qu'il y a de l'eau potable, il y a forcément des eaux usées derrière. Donc les eaux usées font partie de ce grand cycle de l'eau. Aujourd'hui, les eaux pluviales urbaines également, qui étaient à la charge des communes jusqu'à présent et qui sont transférées aux communautés de communes ou d'agglomération et les inondations comme nous venons d'évoquer. Donc c'est l'eau dans tous ces états.
Oui, voilà. Et notamment également, après, pour les eaux usées, les stations d'épuration. C'est aussi votre compétence.
Oui, et les stations d'épuration font partie de cette compétence-là. Ce sont aussi des ouvrages qui coûtent très 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 cher et qui prennent du temps à être mis en place lorsqu'il y a des nécessités. Il y a quelques projets sur l'agglo, quelques demandes, mais il faut savoir que ce sont des investissements qui sont aussi très très importants,
mais qui sont indispensables, notamment lorsqu'on se pique d'écologie et de produire des eaux qui sont pas trop polluantes.
Mais c'est indispensable, oui, parce que déjà on revient à l'alimentation en eau potable, mais derrière, effectivement, il peut y avoir des problèmes environnementaux, il peut y avoir des problèmes d'urbanisme également, puisque les stations d'épuration sont construites pour une capacité de X habitants, et nous sommes dans une région qui se développe pas mal, il n'y a pas que Sigean, dans la Grande Narbonne qui se développe, et il faut mettre en adéquation les stations d'épuration par rapport aux populations actuelles et aux populations à venir.
Voilà.
C'est-à-dire que quand la station d'épuration n'est plus en capacité, mais ce sont les autorisations d'urbanisme qui sont refusées.
Oui, voilà. Donc, d'où la complexité également de ce grand cycle des eaux dont vous avez la compétence.
Je ne vous le fais pas dire.
Dont vous avez la compétence au Grand Narbonne. Merci Michel Jam. On conclut cette deuxième partie. On se retrouve pour une troisième où on va parler un petit peu plus de ce que vous faites, peut-être lorsque vous ne vous occupez pas du grand cycle de l'eau.